Le sentiment éveillé et la mémoire percutée.
Au bout de quelques petites minutes, Aglié entrait.
« Veuillez m'excuser, mes chers amis. Je sors d'une discussion désagréable. Et c'est peu dire. Notre ami Cassobon le sait, je me considère comme un amateur d'histoire des religions, ce qui fait que certains, et ce n'est pas rare, recourent à mes lumières, peut-être plus à mon bon sens qu'à ma doctrine. Il est curieux, savez-vous, comme parmi les adeptes d'études sapientiales se trouvent parfois des personnalités singulières. Je ne parle pas des sempiternels chercheurs de consolations transcendantales ou des esprits mélancoliques, mais même des personnes de profond savoir et de grandes finesses intellectuelles qui pourtant s'abandonnent à des chimères nocturnes et perdent le sentiment de la limite entre vérité traditionnelle et archipel de l'étonnant. Les personnes avec lesquelles j'avais une entrevue tantôt disputaient sur des conjectures puériles. Là, cela arrive, comme on dit, dans les meilleures familles. Mais suivez-moi, je vous prie, dans mon petit cabinet de travail où l'atmosphère pour converser sera plus confortable. » Et il souleva la portière de cuir et nous fit passer dans l'autre pièce. Nous ne l'aurions pas taxé de petit cabinet tant elle était vaste et meublée d'exquises étagères anciennes, tapissées de livres bien reliés, certainement tous d'un âge vénérable. Ce qui me frappa plus que les livres, ce furent quelques vitrines remplies d'objets incertains, des pierres, eûmes-nous l'impression, et de petits animaux, sans que nous puissions comprendre s'ils étaient empaillés ou momifiés ou finement reproduits. Le tout comme immergé dans une clarté diffuse et crépusculaire. Elle paraissait provenir d'une grande fenêtre bilobée au fond, des vitraux aux résilles de plomb en losange filtrant une lumière d'ambre, mais la lumière de la fenêtre bilobée se fondait dans celle d'une large lampe posée sur une table d'acajou sombre, recouverte de papier. C'était une de ces lampes qu'on trouve parfois sur les tables de lecture des vieilles bibliothèques, à l'abat-jour vert en coupole, qui pouvait jeter un ovale blanc sur les pages, laissant le reste de la salle dans une pénombre opalescente. Ce jeu de lumières différentes, aussi innaturelles les unes que les autres, d'une certaine façon, ravivait cependant, au lieu de l'éteindre, la polychromie du plafond. C'était un plafond en voûte, que la fiction décorative voulait soutenir aux quatre côtés par des colonnettes rouges briques, avec de petits chapiteaux dorés, mais le trompe-l'œil des images qui l'envahissaient, réparties en sept zones, lui donnait des allures de voûte bohémienne, et toute la salle prenait le ton d'une chapelle mortuaire, impalpablement pécamineuse, mélancoliquement sensuelle. « Mon petit théâtre, » dit Aglié, « dans le goût de ces fantaisies de la Renaissance où l'on disposait des encyclopédies visuelles, florilège de l'univers. Plus qu'une habitation, une machine pour se rappeler. Il n'est d'image que vous voyez qui, se combinant dûment avec d'autres, ne révèle et ne résume un mystère du monde. Vous remarquerez cette théorie de figure que le peintre a voulu similaire à celle du palais de Mantoue. Ce sont les 36 décans, seigneur du ciel. Et pour faire un clin d'œil et par fidélité à la tradition, depuis que j'ai découvert cette splendide reconstitution due à qui sait qui, j'ai souhaité que même les petites pièces qui correspondent, dans les vitrines aux images du plafond, résumassent les éléments fondamentaux de l'univers. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ce qui explique la présence de cette gracieuse salamandre, par exemple, chef-d'œuvre de taxidermie d'un ami cher, ou cette délicate reproduction en miniature, au vrai un peu tardive, de l'éolipile de Héron, dont l'air contenu dans la sphère, si j'activais ce petit fourneau à alcool qui lui sert de cuvette, se réchauffant et s'échappant par ses menus becs latéraux, provoquerait la rotation. Instrument magique dont se servaient déjà les prêtres égyptiens dans leur sanctuaire, comme nous le répètent tant de textes illustres. Eux, ils l'utilisaient pour feindre un prodige, et les foules vénéraient ce prodige. Mais le vrai prodige est dans la loi d'or qui en règle la mécanique secrète et simple, aérienne et élémentaire, air et feu. Et c'est là cette sapience que possédèrent nos anciens et les hommes de l'alchimie, et qu'ont perdu les constructeurs de cyclotrons. Ainsi tournai-je le regard vers mon théâtre de la mémoire, enfant d'un grand nombre d'autres plus vastes, qui fascinèrent les grands esprits du passé, et je sais. Je sais plus que les prétendus savants. Je sais que comme c'est en bas, de même c'est en haut. Et il n'y a rien d'autre à savoir. Il nous offrit des cigares cubains de forme curieuse, pas droits, mais tordus, froissés, bien qu'épais et gras. Nous nous récriâmes d'admiration et Diotalivi s'approcha des étagères. « Oh, disait Aglier, le minimum d'une petite bibliothèque, comme vous voyez. Pas plus de 200 de volumes. J'ai mieux dans ma maison de famille. » Mais modestement tous de quelque prix et rareté, certes pas disposés au hasard. Et l'ordre des matières verbales suit celui des images et des objets. Diotalivi fit timidement mine de toucher les volumes. « Je vous en prie, dit Aglier, c'est l'Oedipus Egyptiacus d'Athanasius Kircher. » Vous le savez, il a été le premier après Eurapollon qui tenta d'interpréter les hiéroglyphes. Homme fascinant, j'aimerais que ce fût ici comme son musée des merveilles qu'à présent on voudrait disperser parce que celui qui ne sait pas chercher ne trouve pas. Très aimable conservateur. Il était si fier le jour où il découvrit que ce hiéroglyphe signifiait « Les bénéfices du divin Osiris soient fournis par des cérémonies sacrées et par la chaîne des génies. » Puis vint cet homme plein de manigances, le très odieux Champollion, croyez-moi d'une vanité infantile, et il affirma avec insistance que le signe correspondait seulement au nom d'un pharaon. Quelle ingéniosité chez les modernes pour avilir les symboles sacrés. L'ouvrage n'est pas si rare que ça, il coûte moins qu'une Mercedes. Regardez plutôt celui-ci. La première édition, 1595, de l'Amphithéatrum Sapientiae Eternae de Qumrat. On dit qu'il n'y en a que 2 exemplaires au monde. Voici le troisième. Et celui-ci, par contre, c'est la première édition du Telluris Theoria Sacra de Burnesius. Je ne puis pas en regarder les tables le soir sans éprouver une sensation de claustrophobie mystique. Les profondeurs de notre globe, insoupçonnées, n'est-ce pas? Je vois que M. Diotalivi est fasciné par ces caractères hébraïques du traité des chiffres de Vigenère. Voyez alors ceci. C'est la première édition de la Kabbalah Denudata de Knorr Christian von Rosenroth. Vous êtes sûrement au courant. Ensuite, le livre fut traduit, partiellement et mal, et divulgué en anglais au début de ce siècle par ce scélérat de MacGregor Mathers. Vous devez savoir quelque chose sur ce scandaleux conventicule qui tant fascina les esthètes britanniques, la Golden Dawn. D'une pareille bande de falsificateurs de documents initiatiques, il ne pouvait que naître une série de dégénérations sans fin, depuis la Stella Matutina jusqu'aux églises sataniques d'Aleister Crowley qui évoquaient les démons pour obtenir les grâces de certains gentilshommes fidèles aux vices anglais. Si vous saviez, mes chers amis, combien de personnes douteuses, et c'est peu dire, il faut rencontrer quand on se consacre à ses études. Vous le verrez vous-même si vous commencez à publier dans ce domaine-là. Belbo saisit la perche que lui tendait Aglier pour entrer dans le vif du sujet. Il lui dit que les éditions Garamond désiraient publier chaque année quelques livres de caractère, dit-il, ésotérique. « Oh, ésotérique !» sourit Aglier, et Belbo rougit. « Disons hermétique. »« Oh, hermétique !» sourit Aglier. « Bon, dit Belbo, j'utilise sans doute des termes erronés, mais vous comprenez certainement le genre. »« Oh !» sourit encore Aglier. « Il n'y a pas de genre. C'est le savoir. Ce que vous voulez, mes chers amis, c'est publier un éventail du savoir non dégénéré. » Ce ne sera peut-être pour vous qu'un choix éditorial, mais si je dois m'en occuper, ce sera pour moi une recherche de vérité. Une quête du Graal. Belbo l'avertit que, comme le pêcheur jette son filet et peut ramener aussi des coquilles vides et des sacs de plastique, chez Garamond arriveraient de nombreux manuscrits d'un sérieux discutable, et on cherchait un lecteur sévère qui tria le bon grain de livret, mais qui signalerait aussi les histoires bizarres, car une maison d'édition amie appréciait qu'on détournât vers elle des auteurs d'une moindre dignité. Naturellement, il s'agissait d'établir aussi des honoraires dignes de ce travail. Grâce au ciel, je suis ce qu'on appelle un rentier curieux et même avisé. Il me suffit, dans le cours de mes explorations, de trouver un autre exemplaire du Qumrat, ou une autre belle salamandre embaumée, ou une corne de narval, que j'aurais honte de posséder dans ma collection, mais que le trésor de Vienne va jusqu'à exhiber comme corne de licorne, et je gagne avec une brève et agréable transaction plus que vous ne pourriez me donner en 10 ans de consultation. je verrai vos manuscrits dans un esprit d'humilité. Je suis convaincu que même dans le texte le plus désolant, je découvrirai une étincelle, sinon de vérité, du moins de mensonge insolite, et souvent les extrêmes se touchent. Je ne m'ennuierai que sur l'évidence, et pour cet ennui, vous me dédommagerez. Selon l'ennui que j'éprouverai, je me limiterai à communiquer en fin d'année une courte note, que je contiendrai dans les limites du symbolique. Si vous la jugez excessive, vous m'enverrez une cassette de vin de cru précieux. Belbeau restait perplexe. Il était habitué à traiter avec des conseillers geignards et affamés. Il ouvrit la serviette qu'il avait apportée avec lui et en tira un volumineux manuscrit dactylographié. « Je ne voudrais pas que vous vous fassiez des idées trop optimistes. Voyez, par exemple, ceci qui me semble typique de la moyenne. » Aglié feuilleta le manuscrit. « La langue secrète des pyramides. Voyons voir la table des matières. Le pyramidion, mort de Lord Carnarvon, le témoignage d'Hérodote. » Il le referma. « Vous l'avez lu tous les trois ?»«
Moi, rapidement, ces jours derniers, » dit Belbeau. Il lui restitua l'objet.
« Voilà, vous voudrez bien me dire si mon résumé est correct. » Il s'assit derrière son bureau, mit la main dans la poche de son gilet, en sortit la boîte à pilules que j'avais déjà vue au Brésil, la tourna et retourna entre ses doigts fins et fuselés qui, il y a un instant, caressaient ses livres chéris, leva les yeux vers les décorations du plafond et me donna l'impression de réciter un texte qu'il connaissait depuis longtemps.
L'auteur de ce livre devrait rappeler que Piazzi Smith découvre les mesures sacrées et ésotériques des pyramides en 1864.
Permettez-moi de citer seulement par nombre entier, à mon âge la mémoire commence à faire défaut. Il est singulier que leur base soit un carré dont le côté mesure 232 mètres. À l'origine, la hauteur était de 148 mètres. Si nous traduisons en coudées sacrées égyptiennes, nous avons une base de 366 coudées, c'est-à-dire le nombre de jours d'une année bissextile. Pour Piazzi Smith, la hauteur multipliée par 10 à la puissance 9 donne la distance Terre-Soleil. 148 millions de kilomètres. Une bonne approximation pour ces temps-là, vu qu'aujourd'hui la distance calculée est de 149 millions et demi de kilomètres, et il n'est pas dit qu'ils aient raison, les modernes. La base, divisée par la largeur d'une des pierres, donne 365. Le périmètre de la base est de 931 mètres, que l'on divise par le double de la hauteur, et on a 314, le nombre pi. Splendide, n'est-ce pas ?
Belbeau souriait, embarrassé. Impossible. Dites-moi comment vous faites pour...
Ne coupe pas la parole à monsieur le comte, Jacopo, dit empressé Diotta Levi. Aglié le remercia d'un sourire poli. Il parlait en laissant errer son regard au plafond, mais il me sembla que son inspection n'était ni oiseuse, ni fortuite. Ses yeux suivaient une piste, comme s'il lisait dans les images ce qu'il feignait d'exhumer de sa mémoire.